Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Des manifestations interdites, des amendes augmentées et un préfet limogé, c'est la réponse du gouvernement aux scènes de violence et de pillage sur les Champs-Élysées pour le 18e samedi de mobilisation des Gilets jaunes ce week-end. Le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé hier les mesures prises par son gouvernement à Matignon puis aux 20h de France 2.
On ne peut pas s'arrêter à la tyrannie d'une irréductible minorité, c'est ce qu'a déclaré de son côté Emmanuel Macron au cours d'un débat de plus de 8 heures hier soir à l'Élysée avec 64 intellectuels.
Un débat que vous avez d'ailleurs modéré, Guillaume Erner. Le chef de l'État a annoncé sur France Culture qu'il avait pris la décision d'organiser en juin prochain un sommet des deux rives pour une large politique méditerranéenne. Alors qu'en Algérie, aujourd'hui, les étudiants notamment se mobilisent de nouveau contre leur président Abdelaziz Bouteflika.
Et puis la question du jour, dans une dizaine de minutes, Catherine, Black Blocs, quel est leur mode opératoire? On posera la question à Eric Delbecq, il est expert en sécurité intérieure.
Des forces de l'ordre plus mobiles et des interdictions de manifester dans les quartiers déjà durement touchés par les casseurs et les pilleurs. Le gouvernement durcit le ton après les violences de samedi dernier à Paris sur les Champs-Élysées. Des violences incompréhensibles de factieux que le peuple français n'accepte pas, a condamné hier Édouard Philippe. Le Premier ministre était l'invité du 20h de France 2, visage fermé, ton ferme, comme un peu plus tôt à Matignon lorsqu'il avait détaillé toutes les mesures prises pour lutter contre les mouvances d'ultra et pour répondre aux dysfonctionnements constatés lors de la manifestation de samedi, Florence Turme.
Le Premier ministre a repris à son compte les critiques formulées par les forces de police présentes sur le terrain samedi. Pas assez de mobilité, pas assez de réactivité et des consignes inappropriées, souligne Édouard Philippe, notamment pour réduire l'usage des balles de défense. On le comprend entre les lignes, la décision de limiter les LBD ne venait donc pas du ministère de l'Intérieur, mais plutôt du préfet de police de Paris. Michel Delpuech se retrouve ainsi limogé, remplacé par Didier Lallemand, l'actuel préfet de la Nouvelle-Aquitaine. L'acte 18 des Gilets jaunes aura en quelque sorte constitué le coup de grâce pour Michel Delpuech, donné régulièrement partant pour sa gestion de l'ordre public, mais plus encore pour l'affaire Benalla. En dehors de la sanction politique, Édouard Philippe a annoncé hier l'intention du gouvernement d'interdire chaque fois qu'il le faudra les manifestations dans les quartiers les plus touchés, les Champs-Élysées, la place Péberlan à Bordeaux, celle du Capitole à Toulouse, interdiction qui pourrait donc entrer en vigueur samedi prochain, dès lors que les services de renseignement suspectent la présence de casseurs dans les rangs du cortège, ce qui était d'ailleurs le cas en amont du rassemblement du week-end dernier. Des casseurs, des émeutiers qui n'ont rien à voir avec la grande majorité des gilets jaunes, insistait Édouard Philippe, en invitant ces derniers à prendre leur distance avec eux, leur responsabilité aussi, avec également une mise en garde sévère à l'adresse des personnalités publiques qui encourageraient les violences. La justice sera à l'avenir systématiquement saisie.
Les interdictions de manifester dans certains quartiers dès lors que des ultras seront présents. Une mesure jugée stigmatisante par certains gilets jaunes comme Lionel qui manifeste tous les week-ends à Paris ou David qui vient de Montauban pour défiler pacifiquement à Toulouse. Tous deux refusent d'apparaître comme complices des violences.
Les ultras, les Black Blocs ont annoncé leur arrivée. Comment ça se fait qu'ils ont pu rentrer tranquillement? C'était aux forces de l'ordre de sécuriser la zone. Est-ce à nous de prendre la responsabilité de nous dire en plus de ça qu'on était complices? C'est pas nous qui sommes complices, c'est plutôt ceux qui n'ont pas fait leur travail en amont.
Oui, on se pose la question aujourd'hui de ce que cherche le gouvernement. Il dit qu'il est là pour protéger les biens, il est là aussi pour garantir la sécurité de tous les citoyens qui travaillent, qu'ils manifestent ou qu'ils expriment une colère ou un sentiment. Moi, en tant que citoyen français, je respecte la loi, mais je continuerai à manifester.
Un propos recueilli par Sébastien Sabiron et Stéphane Iglesis. De son côté, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est engagé hier à faire en sorte qu'aucun commerçant ne soit acculé à la faillite en raison des violences commises lors des manifestations des Gilets jaunes. En cas de problème de trésorerie, le ministre a promis de généraliser les brigades d'intervention qui vont démarcher les commerçants, artisans, indépendants, pour leur indiquer directement de quels droits ils peuvent bénéficier. Par ailleurs, le dispositif d'étalement de cotisations sociales et fiscales est prolongé jusqu'à fin avril. Alors que le mouvement des Gilets jaunes continue donc, la CGT et FO vont tenter aujourd'hui de faire entendre leurs revendications sur le pouvoir d'achat. Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse UNEF et UNL ont également appelé à participer à cette mobilisation nationale interprofessionnelle. Pas question d'être spectateur ni caution de décisions qui pourraient être prises en matière sociale à l'issue du grand débat, explique Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. FO qui n'a pas participé d'ailleurs à la consultation l'éducation nationale lancée par Emmanuel Macron. Un grand débat national auquel 64 intellectuels ont participé hier soir à l'Élysée. Débat de plus de 8 heures, soirée spéciale retransmise sur France Culture, où Emmanuel Macron a de nouveau écarté la remise en cause de ses réformes, notamment sur l'ISF et le non-cumul des mandats. L'occasion également pour le chef de l'État d'élargir le dialogue aux questions sociétales et internationales, avec notamment l'actualité algérienne. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'un sommet des deux rives en juin prochain entre les pays de part et d'autre de la Méditerranée.
Oui, tout est parti de la prise de parole de l'historien Benjamin Stora. C'était un peu après 21h hier soir. Il a évoqué la question extrêmement sensible de ce qui se passe en Algérie et il a posé cette question de savoir comment la France pouvait apporter son concours à la résolution du problème algérien.
Comment faire en sorte que nous puissions envoyer des signes politiques, culturels, démocratiques, humains en direction de toute cette jeunesse qui est immense et qui a des répercussions dans la diaspora maghrébine en France, pas simplement algérienne, mais maghrébine en France, dans un signal positif fort, mais qui ne soit pas aussi vécu comme de l'ingérence. Ça, c'est très compliqué. Dans le même temps, deuxième petite question très rapide, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dès à présent la préparation d'un sommet méditerranéen ?
Emmanuel Macron a répondu qu'en tant que chef d'État, il ne pouvait pas vraiment donner son avis et prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Mes homologues sont les actuels dirigeants du pays, a-t-il résumé pour expliquer la position délicate dans laquelle il se trouve. Et s'il en venait à choisir ses interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, on lui reprocherait, a-t-il dit, d'être dans l'immixtion, dans l'ingérence.
D'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
C'est-à-dire que l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Et donc, il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ensuite, moi, j'ai pris la décision d'organiser pour le mois de juin, donc de réaliser le rêve de Benjamin Stora, mais il ne le savait pas encore, au mois de juin, un sommet qu'on a appelé des deux rives.
Se tiendra donc un sommet en juin prochain qui réunira, a-t-il précisé, une dizaine de pays, 5+5, de chaque côté de la Méditerranée, avec les autorités de ces pays, mais aussi les milieux culturels et intellectuels. Il faut, sur cette question, a-t-il conclu, avoir une forme d'art du contournement de politique indirecte.
Stéphane Robert, merci pour ces explications. Emmanuel Macron face aux intellectuels à l'Élysée, 8 heures de débat en 8 vidéos. C'est un dossier complet à retrouver en une sur franceculture.fr. Et alors que Emmanuel Macron annonçait hier ce sommet des deux rives pour juin prochain, l'Algérie, elle, célèbre aujourd'hui le 57e anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance. Étudiants et personnels de santé appellent à manifester de nouveau aujourd'hui contre le président Abdelaziz Bouteflika. Il a confirmé hier dans une nouvelle lettre aux Algériens qu'il prolongerait son 4e mandat présidentiel au-delà de son terme constitutionnel le 28 avril, le temps de réviser la constitution puis d'organiser une nouvelle présidentielle. L'Algérie continue de vivre des heures historiques, difficiles d'en parler correctement pour les journalistes de la télévision publique ENTV que notre envoyé spécial en Algérie, Saïd Seguir, a pu rencontrer.
Nous n'avons pas l'autorisation de pénétrer dans les locaux de la télévision publique algérienne, alors c'est au détour d'une rue que Malem Mohamed nous donne rendez-vous. Ce journaliste économique, ancien présentateur du journal télévisé, travaille depuis 25 ans à l'ENTV. Durant les premiers jours de la contestation, sa chaîne n'a pas diffusé d'images des énormes manifestations, et si depuis l'étau s'est un peu desserré, la censure est toujours vive.
Nous avons quand même vu une certaine critique, même maquillée, mais on a toujours ce sentiment d'être contrôlé, d'être visé, d'être menacé.
Pendant les années de terrorisme, raconte Malem Mohamed, nous avons manqué de vigilance. C'était le tout militaire, nous avions un ennemi commun, la télévision, c'était la parole de l'État. Aujourd'hui, les journalistes des radios et télévisions publiques tentent de s'émanciper, mais l'habitude, poursuit Malem Mohamed, est comme une seconde nature.
Ça devient dans notre subconscient de s'auto-censurer, au fur et à mesure que le temps passe, parce que le phénomène est généralisé. Chaque journaliste, chaque technicien, chaque cadreur, laissez les gens faire leur travail en bonne et due forme.
Il y a quelques jours, les reporters de la télévision publique ont obtenu de leur direction quelques minutes supplémentaires de reportage sur la mobilisation monstre de vendredi. Rien ne dit en revanche qu'ils couvriront aujourd'hui les manifestations des étudiants et des médecins.
Saïd Seguir en Algérie pour France Culture. Les autorités néerlandaises privilégient la piste terroriste sans exclure un différend familial après l'arrestation d'un homme hier, un homme originaire de Turquie, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht, faisant 3 morts et 5 blessés. passé.
7h09, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins de France Culture. Le Royaume-Uni traverse une crise constitutionnelle majeure.
C'est ce qu'estime Robert Buckland, un député conservateur et conseiller juridique du gouvernement. Après la décision hier du président de la Chambre des communes, le speaker John Bercow, pro-européen, a écarté tout nouveau vote sur l'accord de Brexit si Theresa May ne revoit pas sa copie.
Ce que le gouvernement ne peut légitimement pas faire, c'est de soumettre à nouveau à cette Chambre la même proposition, ou sensiblement la même proposition, que celle qui a été rejetée la semaine dernière par 149 voix d'écart. Cette ordonnance ne doit pas être considérée comme mon dernier mot sur le sujet. Elle indique simplement les conditions auxquelles doit répondre le gouvernement afin que je puisse autoriser un troisième vote significatif sur le Brexit lors de cette session parlementaire.
John Bercow, le président de la Chambre des communes, à 11 jours donc de la date théorique du Brexit. Le président de la Chambre des communes qui s'appuie sur une jurisprudence de 1604 pour expliquer que le gouvernement n'a pas le droit d'organiser un nouveau vote sur un texte qui a déjà été rejeté par le Parlement. Incertitude politique à Londres, inquiétude économique en Écosse, notamment chez les éleveurs des Borders à la frontière avec l'Angleterre, où Marie-Pierre Véraud s'est rendue.
Ce sont les enchères pour les moutons ce matin-là. Négociants et éleveurs se pressent.
Je m'appelle Alan Murray et je suis éleveur ici dans les Borders écossais. Et ce matin, j'apporte des bêtes au marché. Le principal problème avec le Brexit, ce sera pour le bétail, en particulier les moutons et les agneaux. On exporte beaucoup en Europe et on va perdre ce marché jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement à l'exportation soit trouvé. Mais cela aura un coût et je ne sais même pas combien je retirerai de la vente de mes agneaux cet été.
Combien? Quand? Quel Brexit? Des interrogations qui minent les éleveurs des Borders. Scott Donaldson est le directeur du marché.
Le plus gros défi en ce moment, c'est l'incertitude qui crée de l'instabilité. Les éleveurs et les fermiers n'ont pas de visibilité. Or, l'agriculture est un processus sur le temps long.
À ses côtés, Robert Neil approuve. Il possède quelques 300 bêtes.
Les fermiers ont besoin de faire des prévisions pour l'avenir. Par exemple, moi, je suis éleveur de bœuf écossais. C'est un cycle de 3 ans entre le moment de l'insémination et celui où on vend le veau. 3 ans avant un retour sur investissement. Et en ce moment, c'est dur, on ne sait pas où on va. Le Brexit est au coin de la rue, dans 2 semaines, et on n'a toujours aucune information précise sur ce qui va se passer, des décisions. C'est cela dont nous avons besoin.
Et c'est bien ce dont il risque encore de manquer.
Marie-Pierre Véraud dans les Borders, en Écosse pour France Culture. Le cyclone qui a balayé en fin de semaine dernière le Mozambique et le Zimbabwe en portant routes, ponts, hôpitaux et écoles a fait au moins 182 morts dans les deux pays, mais le bilan final pourrait bien dépasser le millier de morts, a prévenu le président du Mozambique hier. Le temps de ce mardi est 19 mars, nuageux sur la moitié ouest de l'Hexagone, plus lumineux à l'est. Au meilleur de la journée, il fera entre 9 et 14 degrés en général du nord au sud jusqu'à 16 près de la Méditerranée, Guillaume.